Alors je reprends le chapitre 21 de l'évangile de Jean, dont j'ai commenté une partie la fois passée. Je rappelle juste le contexte. Nous sommes après la résurrection de Jésus. Nous sommes après le récit d'une pêche particulière, spectaculaire. Et cette pêche, donc il y a des poissons, se prolonge par un repas. Et nous voici témoins d'un de ces échanges qui ont lieu après les repas, comme quand on a ensemble des invités au salon et on échange. La première partie du texte, je l'ai lu la semaine dernière, donc je vais la raccourcir un peu. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci ?» Et je vais un petit peu plus loin. Donc la mission qu'il lui donne, à la fin, Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » « Vraiment, je te l'assure, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras, un autre nouera ta ceinture et te mènera là où tu n'aimerais pas. Allez. » Par ces mots, il faisait allusion au genre de mort que Pierre allait endurer à la gloire de Dieu. Après avoir dit cela, il ajouta, « Suis-moi. » Pierre se retourna et aperçut le disciple que Jésus aimait. Il marchait derrière eux. C'est ce disciple qui, au cours du repas, s'était penché vers Jésus et lui avait demandé, « Seigneur, quel est celui qui va te trahir ?» En le voyant, Pierre demanda à Jésus, « Et lui, Seigneur, qu'en est-il de lui ?» Jésus lui répondit, « Si je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que je revienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. En fait, Jésus n'avait pas dit qu'il ne mourrait pas, mais seulement, « Si je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que je revienne, que t'importe ?» Jusqu'ici la lecture, et j'aimerais attirer notre attention sur ce début d'une des phrases de Jésus. « Si je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que je revienne. » Je me suis dit que l'air de rien, ce que nous lisons ici, c'est que le destin d'un homme, au moins un homme, ce disciple que Jésus aimait, est suspendu à un vouloir de Jésus. Le destin de ce disciple tient à ce que Jésus veut. Et dans le fil de notre récit, ça s'ajoute, ça se cumule avec plusieurs actes, plusieurs paroles de Jésus. Jésus vient d'annoncer l'avenir de Pierre. Quand tu seras vieux, il se passera telle ou telle chose. Alors bien sûr, on peut se dire, mais si Jésus a pu dire ça à Pierre, c'est parce qu'il avait vu un petit peu comme un... Il avait observé l'avenir un peu comme un observateur extérieur observe quelque chose sur lequel il n'a pas d'influence. Mais voilà, ici, Jésus dit les choses autrement. Il dit, si je veux. Qui conduit facilement à se dire que quand il a dit à Pierre ce qui allait se produire pour lui, c'était aussi probablement de par un vouloir. Donc Jésus vient d'annoncer l'avenir. D'autre part, Jésus vient de faire la preuve en acte qu'il était capable de savoir là où il y avait du poisson, et même beaucoup, 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 beaucoup de poissons, là où des pêcheurs professionnels n'en avaient pas vu du tout. Et puis, bien sûr, juste avant, il y a la résurrection. Celui qui parle, qui s'adresse à eux en ce moment, était mort. Et voilà, il est vivant. Donc ça, c'est le contexte de cette phrase de Jésus. Si je veux qu'il reste en vie, il y a toutes ces trois choses que Jésus a faites auparavant. Et dans le même esprit, je crois qu'il faut relever aussi la question que Pierre a posée. Seigneur, tu m'as dit ce qui m'attendait à moi, et lui, il va lui arriver quoi? Et je me dis que s'il pose cette question, c'est bien parce qu'il est persuadé que Jésus est capable d'y répondre. Que Jésus sait déjà ce qui va arriver à cet autre disciple. Et je trouve ça assez convergent et assez impressionnant. Parce que devant la question, l'avenir, c'est quoi ? Ordinairement, la seule réponse qui me semble juste d'apporter, c'est « Mais comment veux-tu que je te réponde ? Comment voulez-vous que je vous dise une telle chose ?» Ce n'est pas ce que Jésus fait. Jésus se présente comme en mesure de répondre. Et plus, c'est plus que ça. Donc non seulement il se présente en mesure, mais plus que ça, il prétend, il affirme ouvertement que l'avenir qu'on lui demande tient à son vouloir. Et c'est même pas, si je puis dire, c'est même pas le vouloir de Dieu. Et puis il n'y a pas d'hésitation du style « Inch'Allah, Dieu voulant, il lui arrivera de bonnes choses avec un peu de chance. » C'est pas ça ? Jésus affirme. Et Jésus parle de son vouloir à lui, si je veux. C'est lui-même qu'il met en avant. C'est lui-même qu'il présente comme le décisionnaire. Si je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que je revienne, que t'importe. Alors on peut réagir de façon diverse devant ces paroles. Certains pourront se révolter. S'interroger, s'indigner. Oh, mais ma vie, c'est moi qui décide. Hein. Tous ceux, en tout cas, pour qui Dieu est un peu synonyme d'un être ou d'une chose déplaisante, désagréable, pour qui Dieu est synonyme un peu de castration, d'ingérence, de quoi je me mêle. Comme si Dieu se jouissait de brider les êtres humains, donc il décide pour eux. Sadique. Première réaction, révolte. Mais même si on ne se révolte pas, les questions viennent. Est-ce que ça veut dire que tout est écrit ? Quand vous reprenez le texte, on se rend compte que Jésus assume pleinement son affirmation. Il ne rentre pas dans un débat philosophique, théologique à ce propos. Et du coup, nous sommes là avec sa parole. Et nous sentons, nous en pressentons toute la mesure. J'ajoute, alors c'est davantage anecdotique, mais ça m'a frappé, que je suis frappé de voir qu'une telle chose soit dite finalement dans un cadre extrêmement ordinaire. C'est une conversation toute anodine, peut-être qui se passe en aparté entre Pierre et lui. Mais en tout cas, on est à la fin du repas, et on dirait aujourd'hui on est entre la poire et le fromage. Bon, il n'y a peut-être pas de poire ni de fromage à l'époque, mais c'est un peu ça. Et il n'y a rien qui. Il n'y a aucune notification qui s'affiche sur son portable en disant attention, maintenant ça commence. Non, non. Il n'y a rien qui prépare ça. On n'est pas comme dans les films où il y a la musique forte, là, tout d'un coup, quand on sent que le suspense. Quand on va commencer à faire monter la température du spectateur, on met un petit peu la musique. Voilà, ou quand Indiana Jones apparaît, on entend. On comprend qu'il va se passer quelque chose. Et du coup, c'est dans un cadre très, très ordinaire. Que se dit quelque chose là qui n'a rien d'ordinaire et qui pourrait passer inaperçu. En tout cas, c'est passé inaperçu pour moi et c'est tout d'un coup que j'ai dit, attends, qu'est-ce qui se passe là ? Donc entendons cette chose, entendons cette parole de Jésus. Et je nous invite à l'entendre d'autant plus que ça pourra nous donner confiance, je crois, quand les choses ne tourneront pas pour nous comme nous aurions aimé qu'elles tournent. Jésus promet un destin à Pierre, il l'invite à le suivre. Et il dit que voilà, qu'il en est le maître d'une certaine façon. Et, alors je ne sais pas pour vous, mais pour moi en tout cas, savoir que Jésus oriente, savoir que Jésus dirige, certes, ça soulève des questions sur ce que c'est que le libre arbitre, etc. Mais ça contribue aussi, paradoxalement peut-être, je ne sais pas, ça contribue immensément à me donner confiance. Je préfère suivre quelqu'un en qui je suis prêt à faire confiance déjà, mais je préfère suivre quelqu'un qui me dit que mon avenir lui appartient et qui me donne les moyens de dire oui, ça tient la route, son affaire, que quelqu'un qui me ferait comprendre que bon, ben, ça lui échappe plus ou moins. Donc, on ne sait jamais. Hein. Je dis ça, moi, mais c'est que moi qui dis. Hein. Moi, je préfère suivre quelqu'un comme Jésus. Cela me permet de mettre en valeur une deuxième chose qui me frappe, c'est que Jésus répond bel et bien à Pierre. Mais c'est qu'il ne lui donne pas la réponse que Pierre attendait. Et moi, ce que j'entends plutôt dans la phrase, c'est « je ne te répondrai pas », voire même « occupe-toi de tes oignons ». Jésus ne répondra pas à toutes les questions de Pierre. Et le fait que Jésus vienne de lui confier comme une espèce de confidence, peut-être, je n'ai pas vérifié, mais il me semble bien, c'est peut-être le seul disciple à qui Jésus a dévoilé une partie de son avenir. Il faudrait reprendre les évangiles, mais il me semble bien que c'est ça. Donc, quand quelqu'un nous fait une confidence comme ça, on a l'impression qu'il va prolonger la confidence, qu'il va encore nous dire plein de choses si on l'interroge. Mais le fait que Jésus vienne de faire une espèce de confidence ne veut pas dire que Jésus est prêt à tout lui dire. D'un coup. Contrairement peut-être, je ne sais pas ce que Pierre a imaginé, mais je sais que moi je l'imagine parfois, quelqu'un m'a dit quelque chose d'un peu confidentiel, alors nous imaginons qu'il va répondre à toutes les questions qu'on va lui poser. Voilà. Parce qu'il a marqué déjà de la confiance, alors du coup on s'engouffre dans la porte pour lui poser toutes les questions qu'on a envie de lui poser, parce qu'il va tout nous dire. Sauf que ça ne marche pas comme ça, en tout cas ici ça ne marche pas comme ça. Autrement dit, Pierre n'a pas la main, n'a pas le pouvoir sur Jésus. Et nous non plus. Nous non plus, Jésus ne va pas répondre forcément à toutes nos questions. Ni sur l'avenir des autres, ni sur le nôtre en particulier. Et un peu plus brut, je dirais que Jésus ne nous doit pas de réponse. Nous n'avons pas de prise sur lui. D'ailleurs, comme nous n'avons pas beaucoup de prise, ou pas du tout de prise, sur une personne à qui nous posons une question et qui dit « je ne veux pas te répondre ». Alors évidemment, on peut la torturer, l'attacher, etc., pour essayer de la faire répondre, mais bon. Mais on n'a pas de prise sur l'autre. L'autre dit « non, là, la frontière, elle est là ». Jésus, donc, a prise sur tout. Pierre ne l'a pas, et nous non plus. J'entends là que vivre comme chrétien place Pierre, nous place, non pas dans une situation de maîtrise, mais une situation de déprise. Le Seigneur, c'est lui, c'est pas moi. Même les disciples les plus proches de Jésus, même celui à qui est confiée une responsabilité quand même particulière, il doit accompagner l'Église. Je te confie l'Église, c'est à toi de jouer maintenant. Imaginez. Nous déjà, on se dit parfois, ou j'entends parfois, j'ai l'impression parfois que pour plusieurs d'entre nous, quelques-uns au moins, juste l'idée de distribuer la scène, déjà on a l'impression d'une responsabilité impressionnante. C'est comme si, voilà, c'était comme s'il y avait quelque chose de, je sais pas, d'un peu particulier. Alors imaginez pour Pierre, lui, c'est l'Église qui lui est confiée. Même les disciples les plus proches de Jésus, même celui à qui il a été confié d'accompagner l'Église de manière particulière, même ceux-là ne sont pas, si vous me permettez l'expression, dans le secret des dieux. Limitation humaine. Et cette limitation transparaît d'ailleurs dans un autre aspect du récit. Alors c'est la parole de Jésus. C'est que cette parole de Jésus qui est rapportée ici fait l'objet d'un malentendu. C'est rigolo que l'auteur nous raconte ça. Jésus répondait à Pierre en évoquant une situation hypothétique. Mais si je veux qu'il... Moi, si j'avais envie tout d'un coup, là, enfin tout d'un coup, j'avais envie, si j'avais le désir qu'il reste jusqu'à ce que je revienne, c'est pas tes oignons. Si j'avais ce désir-là. Mais cette parole qui était présentée comme impossible, une option possible, cette parole, elle a été entendue au moins par certains comme quelque chose de certain, précisément. Tant et si bien que l'auteur de l'évangile s'efforce de dissiper le malentendu. Voilà ce qu'ils ont compris, mais ce n'est pas ce que Jésus avait dit. Jésus, lui, il avait dit que ça. Donc, il ne faut pas se mécomprendre. Voilà. Malentendu. Et ça veut dire, à mon sens, que même après la résurrection, des malentendus, ça existe. Ça naît. Et ça peut subsister au moins un certain temps. Même chez les disciples, même chez les proches de Jésus, les paroles de Jésus lui-même ont pu être mal comprises. Et il est devenu nécessaire de dissiper ces malentendus. Et je fais l'hypothèse que si Jean nous le raconte, parce qu'il aurait pu ne pas raconter cette histoire, qu'est-ce qu'elle apporte au récit ? Bon, ça, on pourrait se dire. Mais si Jean nous le raconte, c'est bien pour nous donner à le méditer précisément. Et tant mieux, parce que des malentendus comme ça, ils se produisent encore aujourd'hui. Celui-là ou d'autres. Je disais au tout début de culte, je donne plus de détails, non pas que ça soit important, mais du coup ça rejoint ce que je racontais. Mercredi, je reçois un coup de téléphone en début d'après-midi, je crois, et c'est une personne dont je pensais que c'était Cristiano, qui est là, et puis j'entendais pas bien la voix, et voilà, et puis dans ma tête, c'était nécessairement Cristiano, parce que je devais l'appeler le matin, et il s'est passé autre chose, je l'ai pas appelé, donc j'ai dit, c'est lui qui m'appelle, donc je dis bonjour Cristiano, et on commence à discuter, et puis j'entendais pas bien, et puis on se dit, je lui dis à la personne, c'était Moïse. Je dis à la personne, je te propose de venir samedi en début d'après-midi. Voilà. Et samedi en début d'après-midi, j'attends Cristiano, puisque moi dans ma tête... Et Cristiano, d'ailleurs, on devait s'appeler mercredi, donc il attendait lui toujours mon coup de téléphone, il a attendu très longtemps. Voilà, donc je vois Moïse qui arrive, puis je lui dis, je suis bienvenue, je suis content de te voir, etc. Et puis j'ai dit, mais là j'ai juste 10 minutes parce que Cristiano va arriver. Voilà, donc j'ai... Donc j'ai mis Moïse dehors, enfin j'exagère un peu, mais ça, voilà. Et puis j'attends Cristiano, et Cristiano vient pas, j'essaie de l'appeler, ça s'en occupe. Bref, je lui envoie un mail. Bon, bref. En fin de soirée, tout d'un coup, je sais pas, parce que Cristiano m'a répondu entre-temps, il m'a dit, mais moi j'ai rien noté au niveau rendez-vous. Et puis on avait convenu de s'appeler mercredi, et j'ai pas eu d'appel. Tout d'un coup, je sais pas pourquoi, les choses me reviennent, j'attends, mais oui. 14h, Moïse était là, peut-être que j'ai dit, Moïse de... Oui, ben voilà. Bon, malentendu. Quiproquo. Donc, mais, voilà, des malentendus, ça existe encore aujourd'hui. Et voilà, donc c'est pas, je ne veux pas dire que ce n'est pas grave, parce que bon, ça dépend des situations, mais en tout cas, Cristiano, pendant 3 jours, j'avais dit que je l'appellerais, je ne l'ai pas appelé, donc bon, voilà. Bon, bref, si c'était le cas avec les disciples de Jésus, si c'était le cas avec les proches de Jésus, ne nous étonnons pas que ça arrive aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs assez frappant dans l'évangile de Jean de voir que tout au long de l'évangile, Jean rapporte des malentendus. Et c'est peut-être le... Je n'ai pas vérifié là. Peut-être c'est le seul à le faire. Le plus souvent, ça arrive parce que... Voilà, pensez par exemple à l'épisode avec Nicodème. Il faut naître de nouveau. Nicodème comprend, mais est-ce qu'il doit rentrer dans le ventre de sa mère et renaître ? Bon, il n'a pas compris. Enfin oui, il n'a pas compris. Donc Jésus emploie un langage imagé le plus souvent, et on se trompe parce qu'on le prend littéralement. Petite parenthèse, qui d'ailleurs devrait faire réfléchir tous ceux qui insistent haut et fort pour dire « il faut lire la Bible littéralement ». Précisément, parfois, certaines paroles, quand on les lit littéralement, on les comprend mal. Donc, voilà. Donc le plus souvent, c'est parce que le langage est imagé, c'est des métaphores, des images. Mais ici, dans notre texte, il n'y a pas d'image, mais c'est... deux façons possibles de comprendre. Ah, puis je pourrais donner un autre exemple. Je me suis inscrit à la fac cette semaine, mais non, ça va être un peu compliqué. Mais voilà, un cours semestriel gratuit, c'est quoi ? C'est deux cours par an ? Un au premier semestre et un au deuxième semestre ? Ou c'est un cours gratuit, mais un cours qui s'étend sur un semestre seulement ? Donc voilà. Et apparemment, ce qui me frappe, c'est que au secrétariat de philosophie, on pense que c'est un cours par an. Si je vais sur un autre secrétariat, on me dit que c'est deux cours par an. Donc voilà. Bref, peu importe. Donc on dit la même chose, mais on peut comprendre de deux façons différentes. Bon, bref, les disciples se sont trompés. Jean corrige. Eh bien, nous aussi, aujourd'hui, nous pouvons nous tromper sur le sens des paroles de Jésus. Donc. Je récapitule, les disciples ne sont pas le Seigneur. Ils n'ont pas les réponses à toutes leurs questions. Ils peuvent se méprendre. Bien, nous aussi, nous n'avons pas la réponse à toutes nos questions, et nous aussi, nous pourrons nous méprendre. Et le Seigneur n'est pas à notre service pour répondre à nos questions. Limitation humaine. Je termine en relevant un dernier aspect qui va avec ces limitations humaines. C'est que Pierre, qui a, si je puis dire, cette chance, je ne sais pas si c'est une chance, mais bon, je dis ça comme ça, qui a cette chance de connaître l'avenir, reste quand même avec une parole que je trouve difficile à entendre. Quand tu seras vieux, tu étendras les bras, un autre nouera ta ceinture et te mènera là où tu n'aimerais pas aller. D'ailleurs, cette phrase, je la trouve un peu énigmatique, parce que s'il n'y avait pas la phrase suivante, j'aurais du mal à la comprendre. Ça veut dire quoi, cette phrase? Mais bon, là, l'auteur nous l'explique. Merci, l'auteur de l'Évangile de Jean. Par cette phrase, Pierre entend que l'amour qu'il a pour Jésus, dont il vient de témoigner à trois reprises, ne va pas lui donner une vie pour autant qui sera facile, une vie qui sera favorable, une vie qui sera agréable ou qui sera tout le temps facile et favorable. Pierre entend qu'il n'aura pas la vie super victorieuse qu'on nous raconte parfois aujourd'hui. Alors l'expression, elle est un peu vague. Tu étendras les bras à un autre, nouera ta ceinture et te mènera où tu n'aimerais pas aller. Les commentateurs que j'ai consultés nous disent qu'étendre les bras, ce serait une référence à la crucifixion. Bon, je ne vois pas très bien comment on noue la ceinture là dans cette affaire. Mais bon, et d'être conduit à l'endroit de son exécution. Donc, voilà, j'en suis pas sûr, je dis que ça peut peut-être se discuter, parce qu'étendre les mains, les bras, c'est vague. Bon, mais bien sûr, quand on dit ça aussi, on sait par l'histoire que Pierre a été crucifié. On raconte dans la tradition chrétienne qu'il a été crucifié la tête en bas, sauf erreur de ma part. Donc du coup, on associe peut-être les deux choses. Bon, je ne sais pas, je ne connais pas le dossier en détail. Mais quoi qu'il en soit, Pierre entend qu'il va se passer des choses difficiles à vivre. Mais j'entends là, donc du coup j'essaie de tout nouer ensemble là, j'entends là que le fait de ne pas tout savoir, le fait même de se tromper parfois, le fait de n'être pas sûr de tout comprendre, le fait même d'avoir des choses difficiles à vivre, ben tout ça n'affecte pas le projet de Dieu. Si je veux qu'il se passe telle chose, ce n'est pas ton problème. Donc Pierre entend qu'il va connaître une situation d'affaiblissement, peut-être même d'affaissement, où il ne sera plus libre de ses mouvements comme il l'a été au moins dans sa jeunesse, et que pourtant là, conduit par un bourreau peut-être, il sera là où Dieu l'aura conduit. Là où Dieu l'aura voulu. Là même dans ce qui pourrait paraître un échec, dans ce qui pourrait paraître dégradant, même là, peut-être dans une mort sur laquelle il n'y a pas de prise, même là, il peut être confiant qu'il glorifiera Dieu. Donc la glorification de Dieu, c'est pas comme Starsky Hutch qui gagne toujours à la fin, pour ceux qui connaissent la chanson française, enfin la vieille chanson de la vieille série, voilà. Donc c'est pas forcément glorifier Dieu, c'est pas forcément par de grandes choses éclatantes où on gagne toujours à la fin. Même quand on n'a pas de choix, même quand on a peu de choix, glorifier Dieu peut avoir toute sa place. C'est pas nécessairement ce qui va se passer, mais ça peut avoir sa place. Et la mort même dans l'humiliation n'est pas d'emblée un échec, comme si Dieu avait tiré l'échelle. Oh ben là, ça me dépasse là. Et l'Évangile en témoigne. C'est bien ce qui se passe pour Jésus. Il est mort. C'est la gloire de Dieu qui se manifeste à la croix. Donc c'est Jésus qu'il s'agit précisément de suivre ici. Donc Pierre ne sera pas le premier à mourir dans une déchéance apparente, et il ne sera vraisemblablement pas le dernier. Pour autant, la gloire de Dieu, le projet de Dieu n'est pas affecté pour autant. Voilà pour Pierre. Quant à nous, je ne sais pas, mais je me dis que nous connaîtrons sans doute des situations peu enviables. Et peut-être alors, que nous avons davantage de chance ou de risque, si je parle de la mort, de mourir à l'hôpital, ou bien en maison de retraite. Et je me dis, en lisant ce texte et en pensant à ça, est-ce que j'ai le droit de penser que ça pourrait vouloir dire que oui, même si j'ai la maladie d'Alzheimer, même si je suis sur un fauteuil roulant, quand un autre me conduira là où je n'ai pas envie d'aller, pas vraiment envie d'aller, est-ce que j'ai le droit de penser que ça n'échapperait pas au projet de Dieu et que même là, je peux le glorifier? Chacun répondra pour lui-même, je réponds pour moi-même que je crois que oui. Et à l'âge où j'ai l'impression parfois que ma mémoire décline un peu, ça me fait chaud au cœur. J'espère juste que je m'en souviendrai si ça m'arrive à ce moment-là. À l'âge où je vois qu'il est difficile de voir ce qu'on aime vieillir, de voir ce qu'on aime s'affaiblir, ou même s'éloigner peut-être de la foi, s'éloigner de, voilà, des valeurs qu'on a essayé de transmettre si on pense à nos enfants, eh bien ça me fait chaud au cœur. Je vais passer à un échelon un peu collectif, là, donc je suis un échelon individuel, je passe à l'échelon un petit peu ecclésial. À l'heure où j'ai l'impression, j'exagère, je suis d'accord. Quoique. Bon, bref. À l'heure où j'ai l'impression qu'on propose un peu à l'appel des formations sur la croissance de l'Église, voilà, puissance, croissance, parcours de croissance de la nouvelle création, vitalité, etc. Et où je vois moins, j'ai presque envie de dire, où je ne vois pas parfois, des personnes qui oseraient proposer des formations, alors sur la dépression, il y en a quand même, sur la qu'est-ce qui se passe en Église, comment je peux vivre en Église quand je ne suis pas guéri, par exemple si on est dans une problématique de la guérison. Je ne vois personne qui, je vois peu de personnes qui osent proposer des formations donc plus où on sent plus notre vulnérabilité. Quand l'Église vieillit, par exemple, titre de la formation. Voir, là, je pousse le bouchon, peut-être un peu. Comment accompagner une église mourante? Je ne vois pas beaucoup de formations comme ça. Mais vous imaginez, juste le fait de donner ce titre-là. À une époque où consciemment ou non, occulte au moins en partie ce qui n'est pas trop dynamique. Décathlon, à fond la forme, quoi. On occulte un petit peu tout ce qui n'a pas la frite. Lire ce passage me fait chaud au cœur, dans ce contexte-là. Et à l'époque aussi, parfois, des dénis qui sont prononcés au nom de Jésus, ça me fait chaud au cœur. À l'époque où socialement et ecclésialement, j'en ai peur, puisque c'est socialement, je peux entendre, ecclésialement, ça me fait davantage peur. À l'époque où, ecclésialement, socialement, on est tenté de faire entendre, de me laisser entendre que ces choses-là, c'est nécessairement du registre de la décrépitude, de l'échec. À l'époque où on a honte, soi-même, de se voir faiblir, de s'imaginer peser sur ses enfants, sur sa famille. Où on a honte, où on a comme honte, où on peut avoir comme honte de voir ses forces diminuer. À cette époque-là, ça me fait chaud au cœur de lire ce texte, d'entendre que même dans un endroit où on est conduit par la force des choses ou par la force des armes, la gloire de Dieu n'est pas pour autant en échec. Et ça me dit que des valeurs qui sont socialement et ecclésialement communes, de santé, de jeunisme éternel, et tout ce qui va dans la même veine, ne sont peut-être pas des valeurs qu'il faut croire, ou les plus importantes à croire. Et du coup, j'aime beaucoup cette parole que Jésus dit à Pierre, parce que je crois qu'on peut l'entendre tous. Mais toi, suis-moi. C'est pas ce qui se passe pour l'autre, mais toi, suis-moi, ça tu peux le faire. Si je rapproche à ce qui me précède, suis-moi dans ta vie, suis-moi peut-être dans ton vieillissement, suis-moi dans la mort, suis-moi. Frères et sœurs, je vous invite à continuer à emboîter le pas à Jésus, même si ce n'est pas gagné tous les jours.